Voici la prédication de Porte Ouverte que je vais vous lire maintenant. Vivez le livre. C'est le défi que Frère André, comme on l'a entendu, le fondateur de Porte Ouverte, a souvent lancé à son équipe, l'exhortant à avoir une foi radicale dans l'obéissance totale à Jésus-Christ. Le contrebandier de la Bible s'est aussi vite rendu compte qu'apporter des Bibles, que de donner ce livre aux chrétiens persécutés ne suffit pas. Nous devons aller plus loin et les aider à vivre le livre. Vivre le livre, c'est enfin ce que Dieu nous demande à chacun. Dans le psaume 56 et au verset 5, nous est dit ceci. « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» L'histoire de Porte Ouverte a débuté, et actuellement on est en train de tirer cette année, fêter les 60 ans de Porte Ouverte. L'histoire de Porte Ouverte a débuté par le passage de Bible en contrebande. C'est comme ça que tout a commencé. C'est ce qui manquait aux chrétiens. Frère André nous dit, « Nous avons appris que la Bible n'est pas un livre anodin, mais un livre dangereux. Il a un impact sur la vie des chrétiens persécutés. Nous avons dû le passer en contrebande parce que les autorités voulaient que les chrétiens n'apprennent pas à vivre le livre. Dans les années 80, à la frontière roumaine, les douaniers posaient cette question. Avez-vous des fusils, de la drogue ou des bibles? La persécution survient quand nous voulons obéir à Dieu. Prenons l'exemple dans la Bible, celui de Joseph face à la femme de Potiphar. Tu peux le suivre, tu sais, avec le diapo que je t'ai mis, le power. Voilà. Voilà, on en est là. Merci, José. La persécution ne vient pas de ce qu'il fait, de ce qu'il fait, mais de ce qu'il ne fait pas. Joseph n'est pas persécuté par rapport à ce qu'il fait, mais à ce qu'il ne fait pas. Il reste fidèle au commandement de Dieu. Joseph est sous la pression de céder au pouvoir et à l'autorité de la femme de Potiphar, à la tentation du désir sensuel. Son obéissance le conduit finalement en prison. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Comment ont-ils pu trouver le courage de ne pas se prosterner, de ne pas s'incliner devant les statues? Ça, c'est mon premièrement. Le livre augmente le courage. C'est la diapo suivante. Le livre augmente notre courage. Je vais vous emmener en Érythrée. Je vais vous parler d'Hélène Béran. Hélène Béran est une chrétienne érythréenne, emprisonnée pendant 31 mois. Qui correspond à 2 ans et demi de plus. Parmi ces 31 mois, elle en a passé plusieurs dans un conteneur. Vous voyez, conteneur maritime. Hein. Elle a réussi à garder un exemple de la Bible avec elle. Cet exemple qu'elle a fait passer en contrebande. Alors qu'elle avait les mains et les chevilles menottées, pour avoir transmis une méditation biblique à l'un de ses gardiens, Hélène a trouvé du courage dans la parole de Dieu. Je souffrais terriblement. À ce moment-là, un texte de la Bible que je lisais continuellement durant cette période m'est revenu à l'esprit. Il se trouve dans Ésaïe au chapitre 53 et au verset 2. Il n'avait ni beauté, ni splendeur. Le courage est comme un animal qu'il faut nourrir avec la parole de Dieu. Un Chronique, chapitre 2, verset 13. Alors que tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël, fortifie-toi, prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. La Bible augmente notre courage parce qu'elle nous montre Dieu. Et un chrétien avec Dieu, c'est, comme disait quelqu'un, un et Dieu, c'est la majorité. Ésaïe, au chapitre 46, versets 8 à 9. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. La Bible nous aide à nous souvenir des promesses de Dieu. C'est cela qui nous donne du courage. Je vous emmène au Pakistan. Il s'appelle Rehan. Il a 46 ans, il est marié, père de 3 enfants. Il vit dans un village entouré par des familles musulmanes. Il dit ceci: toute ma vie, on m'a poussé à quitter ma foi pour devenir musulman. Parfois, avec des menaces, avec violence. Chez nous, un pasteur a été kidnappé parce qu'il refusait de devenir musulman. Il a été gardé en captivité pendant 1 an. Nous avons vu Dieu casser les serrures de la prison et libérer notre frère. Comme l'apôtre Pierre dans la Bible. Et Réan ajoute, cette situation n'ébranle pas notre foi. Grâce au courage que nous recevons de la parole de Dieu. Réan a participé à une formation biblique organisée par Porte Ouverte, ce qui, et il dit ceci, ce que nous recevons est comme un verre d'eau frais. En second, nous avons le livre nous aide à faire les bons choix. Psaume 119. Vous l'avez lu depuis le temps. Verset 74. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Imaginez une église composée presque exclusivement que d'hommes, jeunes et célibataires, et qui sont rejetés de la société à cause de leur foi. C'est le cas de nombreuses communautés composées des chrétiens de l'ombre, qu'on appelle les chrétiens de l'ombre, en Iran. Il y a des groupes, c'est que des hommes, des jeunes, célibataires, dans ces groupes. Comment faire dans ces circonstances pour trouver une épouse? Ils aimeraient continuer leur vie avec une compagne qui partage leur foi. Leur seul espoir, c'est d'épouser une chrétienne de l'ombre aussi, comme eux. Mais comment la rencontrer dans une société où les relations entre hommes et femmes sont extrêmement codifiées, codées, tout est. Quelques couples, quand même, arrivent à se former dans les églises de maison, et en particulier les églises de maison clandestines. Mais comme ils découvrent tout juste la foi chrétienne, ils connaissent souvent mal la parole de Dieu, ce qui peut les conduire parfois à manquer de sagesse dans leurs relations. C'est pourquoi toute une partie de la formation biblique qui est organisée par Porte Ouverte pour les chrétiens de l'ombre iraniens explique ce que la parole de Dieu dit sur le mariage. Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme qui ensemble doivent donner naissance à la génération future. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu, mais dans la culture iranienne, les mariages sont souvent arrangés. Qu'en est-il pour nous? Est-ce Dieu qui choisit ou est-ce nous qui le faisons? La formation apporte des réponses bibliques aux questions que se posent tous ces couples de l'ombre. Je vais vous emmener à Java occidentale, en Indonésie. Il s'appelle Zaki. Il est le fils aîné d'une famille de musulmans aisés. Quand Zaki est né, son père avait de grandes attentes à son sujet. Zaki était le fils aîné du fondateur d'une école islamique réputée. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, Zaki a commencé à étudier l'islam. Il considérait les chrétiens comme des infidèles. Quand il entra à l'université, il n'avait de cesse d'essayer de convaincre les étudiants chrétiens de se convertir à l'islam. Mais un jour, dans une discussion avec l'un d'entre eux, il a été frappé par la fermeté de la foi en Jésus-Christ. Cet étudiant avait l'assurance qu'il était pardonné par Dieu et que son âme serait sauvée d'un enfer éternel. Alors Zaki est resté sans voix, comme moi un peu des fois, devant une telle assurance. car lui-même ne savait pas ce qu'il deviendrait après la mort. Est-ce que Dieu allait lui pardonner? Il se posait ces questions. Est-ce que Dieu allait me pardonner? Il n'en était pas absolument persuadé. Mais il se disait en lui-même, comment ce chrétien pouvait-il tenir un tel discours? Zacchée a voulu en savoir plus. Il voulait en savoir plus sur Jésus. Il commença à chercher ce que disait le Coran, puis la Bible. Il dit ceci, « J'étudiais les deux livres en parallèle. Plus je lisais, plus j'étais attiré par la Bible. » Il finit par croire au message de l'Évangile. Quand il en parla à son père, celui-ci le mit à la porte. Toutefois, cela ne l'a pas découragé. Zacchée, qui se fit baptiser dans les mois qui ont suivi, il dut prendre la fuite plus tard. Il est revenu sur l'île de Java occidentale pour que les autres chrétiens d'origine musulmane bénéficient de son expérience. Aujourd'hui, il les aide à monter de petites entreprises, à se relever financièrement quand eux aussi ont été rejetés par leur famille. Nous pouvons faire les bons choix parce que nous vivons par la promesse de Dieu. Mais comment résister à la persécution si nous ne savons pas lire la Bible? Le programme d'alphabétisation de Porte Ouverte au Pakistan apprend aux chrétiens à lire et à écrire en se basant sur la Bible. Depuis 20 ans, des dizaines de milliers de chrétiens ont appris à lire la Bible pour la première fois. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 4, Jésus répondit à Satan, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Troisième, il est là. Le livre nous aide à témoigner dans un environnement hostile. La Bible nous aide à témoigner dans un environnement hostile. La Bible nous parle d'une église persécutée, l'église de Thessalonique. L'église de Thessalonique est devenue un modèle pour l'église. Elle recevait la parole, elle recevait le livre au milieu des tribulations. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, j'espère que je prononce bien. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous jusque dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons même pas besoin de vous en parler. Ça va ? Je vais vous emmener en Ouzbékistan. Cette dame, cette femme s'appelle Léna. Léna n'en revient toujours pas. Cela fait des années qu'elle n'était pas retournée dans son village. Cette femme chrétienne retourne régulièrement dans son pays d'origine, l'Ouzbékistan, où sa foi est connue de tous. Lors d'un séjour, il y a plusieurs années, elle était passée par un petit village où une nouvelle mosquée venait d'être construite. Le molla de la mosquée lui a fait visiter le bâtiment. Et le molla fut surpris quand elle lui dit qu'elle espérait un jour que la parole de Dieu serait prêchée dans cette mosquée. Et quand Léna lui proposa un évangile, un Nouveau Testament, en langue ouzbèque, il prit le livre, l'embrassa, puis le serra contre son cœur. Le molla traitait ce Nouveau Testament avec un profond respect. Plus tard, lorsque Léna est allée à nouveau visiter ce village, elle était loin de se douter de ce qui s'était passé depuis son dernier séjour. Le molla est venu à sa rencontre alors qu'elle était encore en chemin. Et dès qu'il l'a vue, il s'est écrié « Ma fille, te revoilà enfin. Te rappelles-tu de ce Nouveau Testament en ouzbek que tu m'as donné la dernière fois que tu étais venue ? Je t'en suis tellement reconnaissant. Maintenant, j'ai quelque chose à lire. J'ai quelque chose à lire tous les vendredis à la mosquée. J'ai un livre saint qui montre le chemin vers Dieu dans ma propre langue. Je ne comprenais pas les autres livres que j'avais, mais celui-ci m'aide. Il m'aide à préparer mes sermons et à redonner de l'espoir à ceux qui m'écoutent. » En conclusion, beaucoup d'entre nous avons plusieurs Bibles. Nous connaissons des versets, nous connaissons des histoires de la Bible. La Bible est-elle si précieuse pour nous au point de devenir le livre par excellence, la seule référence de notre vie? Avons-nous appris à vivre le livre? Dans la diapo suivante, nous allons prendre ce temps de prière. Avec tout ce que vous avez entendu et vu ce matin, pour vous aider dans votre inspiration, on va laisser afficher comme ça. On prend un temps de prière. Je vais regarder l'heure qu'il est. 11h39. On va se donner 10 minutes, ça va 10 minutes ? Pas trop long ? On se donne 10 minutes. Que chacun puisse prendre position pour toutes ces personnes, pour ces pays, pour tous ces chrétiens.